Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène.
Bonjour chers amis auditeurs de Radio Espérance. Je vous propose aujourd'hui pour notre émission quotidienne Mystique d'Occident, je vous propose de poursuivre ensemble l'œuvre maîtresse de Saint Augustin, Les Confessions. Cet ouvrage écrit dans un style parfois un petit peu difficile pour notre époque pose les questions essentielles de la relation de l'homme à Dieu. Il a énormément influencé les pères de l'Église et les chrétiens de l'Église tout entière depuis cette époque, donc du IVe siècle. Aujourd'hui, nous allons voir son départ pour Rome et la joie qu'il éprouve d'avoir vraiment retrouvé le Seigneur. Voici pour commencer un portrait que Augustin nous dresse de sa mère Monique. Ma mère donc, plutôt mise par toi sous l'autorité de ses parents que par eux sous la tienne, fut élevée dans les règles de la pudeur et de la bonne tenue. Aussitôt qu'avec les années, elle eut atteint l'âge nubile, on la maria à un homme à qui elle s'assujettit comme au Seigneur. Elle s'évertua à te le gagner, te faisant connaître à lui par sa conduite, grâce à quoi tu la faisais belle. Objet d'amour et d'admiration pour son mari. D'autre part, elle endura si bien les outrages du lit conjugal qu'elle n'eut jamais de ce chef aucune altercation avec son mari. Elle attendait l'heure de ta miséricorde, que, croyant en toi, il devint chaste. Lui joignait à un grand fond de bonté, une dose égale d'emportement par bouffée. Mais elle savait, quand son mari se mettait en colère, ne pas lui tenir tête. Non seulement, pas un acte, mais non pas même le moindre mot. Le voyait-elle radouci et de sang-froid, elle en profitait pour lui donner ses raisons, si d'aventure il s'était échauffé trop à la légère. Bref, tandis que maintes femmes dont les maris étaient plus traitables portaient jusque sur leur visage, mis à mal, des traces de coups et qu'elles épiloguaient entre amis la vie privée des dix maris, la faute, disait-elle, donnant sous forme plaisante une grave leçon, en est à vos langues. Du jour que vous avez entendu lire le contrat de mariage, vous deviez le tenir pour l'instrument. Il fallait partant vous rappelez votre condition et ne pas faire les fiers avec vos seigneurs et maîtres. Les autres, comme elles savaient quel rude époux elle avait à supporter, s'étonnaient que jamais on eût ouï dire, ni qu'aucun signe eût découvert, soit que Patricius eût battu sa femme, soit qu'il y ait eu, ne fût-ce qu'un jour, querelle et brouille dans le ménage. À quoi cela tient-il ? Questionnait-elle sans façon. Et elle, de fournir, tel que ci-dessus, sa recette. Suivant qu'elle l'appliquait ou non, les autres, expérience faite, rendaient grâce ou bien demeuraient à la merci des mauvais traitements. Le jour approchait, ignoré de nous autres et connu de toi, qu'elle allait sortir de cette vie. Nous étions debout accoudés contre la fenêtre, où l'on découvrait le jardin enclos dans notre logis. C'était près d'Ostie, sur le Tibre. Nous prenions, loin du bruit, au sortir des fatigues, d'un long cheminement, des forces en vue de la traversée. Nous causions donc, et ce nous était bien doux en tête à tête, oubliant le passé, tendu vers l'avenir, nous cherchions ensemble, en ta présence, ô vérité, en quoi consiste la vie éternelle des saints. Ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a ouï, et rien n'est monté au cœur de l'homme, mais nous étions la bouche de notre âme béante au flot d'en haut, au flot de ta source, la source de la vie qui est en toi. Oh, avoir autant que nous étions capables, l'idée vaille que vaille d'un si grand objet. Notre causerie nous avait amené à conclure que toute délectation, si ample soit-elle, et en quelque splendeur de corps qu'elle soit, d'essence charnelle, apparaît indigne en regard des joies de cette vie-là. Non seulement qu'on la compare, mais que même on la mentionne. Dressée d'un plus ardent désir vers le tout au même instant, nous traversâmes échelon par échelon tous les êtres formés de matière, y compris le ciel, d'où le soleil, la lune et les étoiles épanchent sur la terre leur clarté. Puis, nous continuâmes à monter, par un mouvement intérieur de pensée, de parole et d'admiration pour tes ouvrages. Arrivés à nos propres âmes, nous les franchîmes pour atteindre à la région d'abondance où rien ne manque, où tu fais à jamais paître à Israël la pâture de vérité. Silence au tapage de la chair, silence avec leurs fantômes au sol, aux eaux et à l'air, silence également aux cieux et dans l'âme encore, silence, que sans retour sur soi, elle se dépasse. Silence aux rêves et aux imaginaires révélations, à tout langage et à tout signe, et tout ce qui, quand on le fait, n'est que passage. Supposez le silence absolu. Car, pour qui sait entendre, de toutes choses par une voix. Ce n'est pas nous qui nous sommes faits, mais c'est celui qui éternellement demeure. Oui. Ainsi, les créatures se taisent, l'oreille dressée vers celui qui les a faites, et qu'il parle, lui, tout seul, et non point elle, par lui-même. Et tandis que nous parlions, Seigneur, voici ce qu'elle dit. Quant à moi, mon fils, la vie présente n'a plus rien par quoi me retenir. Qu'est-ce que je fais encore ici-bas ? Pourquoi suis-je encore ici-bas? Je n'en sais rien. Tout ce que j'espérais, du siècle présent, est maintenant au bout. La seule raison que j'avais de vouloir m'attarder encore un peu dans cette vie, c'était, avant de mourir, de te voir chrétien catholique. Mon Dieu me l'a donné, et il me comble par-delà, puisque je te vois méprisé pour son service, jusqu'au bonheur terrestre. Ici-bas, qu'est-ce que je fais? De ma réponse, il ne me reste qu'un souvenir vague. Là-dessus, dans les 5 jours, un peu plus, un peu moins, elle se mit au lit avec de la fièvre. Pendant sa maladie, elle tomba un jour en défaillance et eut un léger évanouissement. Nous accourûmes tous, mais elle reprit vite connaissance, nous regarda, mon frère et moi, debout auprès d'elle, et nous dit d'un air égaré, « Où étais-je ?» Puis, voyant notre affliction et consternation, elle ajouta « Vous enterrerez votre mère ici. » Pour mon compte, je me taisais et je ravalais mes larmes. Mon frère, cependant, trouva quelque chose à dire. Il souhaitait qu'elle mourût au pays et non pas en terre étrangère. Et quand elle entendit cela, elle prit une mine fâchée, lui fit de gros yeux pour l'idée qu'il avait là, puis fixant sa vie sur moi, « Regarde, dit-elle, ce qu'il dit. Et bien toi, tous les deux, enterrez mon corps n'importe où, sans vous mettre en peine de lui. Je ne vous demande qu'une chose, que vous fassiez à l'autel du Seigneur, mémoire de moi, quelque part que vous soyez, que vous puissiez être. » Et quant à lui, avec les mots qu'elle pouvait expliquer son sentiment, elle se tut. Le mal s'aggravait sans lui laisser de répit. À quand remontait dans son cœur la fin de cette vanité, je l'ignorais. J'éprouvais, à la voir ainsi apparaître, une joyeuse surprise. Au reste, quand elle me disait « Qu'est-ce que je fais maintenant, ici-bas ?» Cette grande âme, religieuse et pieuse, rompit donc les liens du corps au 9e jour de sa maladie, en la 55e année de son âge, et du mien, la 33e. Je lui fermai les yeux, un torrent de tristesse m'inondait le cœur. Il se tournait en un flux de larmes. Donc, aussitôt, sur un ordre énergique de l'esprit, mes yeux résorbaient la source jusqu'à la tarir. Un tel combat me faisait bien mal, et dès qu'elle eut rendu le dernier soupir, Adéodate, comme un enfant qu'il était, éclata en sanglots. Je ne voulais point pleurer, car l'usage veut que l'on déplore ainsi ce qui est, quand on meurt, ou un certain état malheureux, ou une extinction quasi totale. Or, sa mort, à elle, n'avait rien de malheureux, et elle ne mourait pas toute. Nous avions, pour nous le garantir, sa conduite, la foi sincère et les arguments certains. Alors, pourquoi, chez moi, ce poids de souffrance au-dedans? Sinon parce que, très douce et très chère, nos habitudes de vie commune soudain rompues, je me trouvais avec une blessure toute fraîche. Je me félicitais du moins du témoignage qu'elle m'avait rendu. Jusque dans sa dernière maladie, comme elle répondait par des caresses à mes égards, elle m'appelait un bon fils. « Je ne t'ai jamais, déclarait-elle, avec de grands élans d'affection, entendu me décocher un mot dur ou me parler d'un ton insolent. Réduit donc à la solitude, sans elle qui me consolait si bien, je me trouvais blessé à l'âme, n'ayant plus, comme nos deux vies n'en faisaient qu'une, qu'un lambeau de vie. »
Thank you.
quand on emporta le corps, pas une larme, ni à l'aller, ni au retour. L'âme brouillée, je te priais comme je pouvais que tu guérisses ma souffrance, mais tu n'en faisais rien, afin, je crois, de me graver, ne fût-ce que par ce seul exemple, que toute habitude enchaîne l'âme, quand même celle-ci n'en est plus à se repaître du mensonge des mots. Il me parut, d'ailleurs, à propos d'aller prendre un bain. Le bain, en effet, tire, m'avait-on dit, son nom, de ce qu'il balaye de l'esprit l'humeur peineuse. À présent, Seigneur, je confesse à ta gloire. Quelqu'un trouvera-t-il qui ait eu un péché à pleurer ma mère, un petit quart d'heure, ma mère qui venait de mourir sous mes yeux, qui maintes années avait pleuré pour me voir vivre sous tes yeux. Ah, que l'on ne se moque point, mais plutôt que, par grande bonté, mon lecteur aille à son tour pleurer sur mes fautes auprès de toi, Père commun des frères de ton Christ. De mon côté, le cœur enfin guéri de cette blessure où l'on aurait pu critiquer l'affection charnelle, j'épanche devant toi, ô notre Dieu, pour celle qui fut ta servante, des larmes d'une autre sorte. Elle coule quand, l'esprit terrifié, on réfléchit au risque de toute âme qui meurt en Adam. De conscience non pas douteuse mais certaine, Seigneur, je t'aime. Tu as, de ton verbe, frappé mon cœur et je t'ai aimé. Aussi bien de toutes parts, et le ciel et la terre, avec tout ce qui est en eux, me disent de t'aimer, et ils ne cessent de le dire à tous, en sorte que nul n'est d'excuse. Mais quand je t'aime, j'aime quoi? Non pas certes la beauté d'un corps, ni le bel air d'une saison, ni l'éclat que voici de la lumière amie de mes yeux, ni la douce mélodie de cantilène au ton varié, ni la suave odeur de corolle, d'onguent, d'aromate. Non, ce n'est pas, quand j'aime mon Dieu, ce n'est pas cela que j'aime. Et toutefois, j'aime une lumière et une voix et une odeur et un mets et un enlacement. Quand j'aime mon Dieu, lumière, voix, odeur, mets, enlacement, pour l'homme que je suis au-dedans. Là où pour mon âme reluit ce qu'en enferme le lieu, où sonne ce que le temps ne ravit, où exhale sa senteur, ce que le souffle n'éparpille. C'est, quand j'aime mon Dieu, cela que j'aime. Or cela c'est quoi? J'ai interrogé la terre, elle m'a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce qu'il y a en elle m'a fait la même confession. J'ai interrogé la mer. Les abîmes, les formes rampantes de la vie, ils m'ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé le vent qui passe, et l'air tout entier avec ses habitants m'a dit, Anaximène s'abuse, je ne suis pas ton Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nous non plus, disent-ils. Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches. Alors à tous ces êtres autour des portes de ma chair, de mon Dieu ai-je dit, que vous-même n'êtes pas, dites-moi, mais dites-moi de lui quelque chose. Et ils m'ont, d'une grande voix, crié, il nous a fait lui. Alors, je me suis retourné face à moi. Toi, me suis-je dit, qui es-tu ? Et j'ai répondu, un homme. Or, voici qu'en moi s'offre à moi l'un au dehors et l'autre au dedans, le corps et l'âme. Le meilleur est le dedans. Moi donc, au dedans, en tant qu'âme, j'ai de cela pris connaissance par les organes de mon corps. J'ai sur mon Dieu interrogé le monde en bloc et il m'a répondu, ce n'est pas moi, il m'a fait lui. La vérité, c'est elle qui me dit « Ton Dieu, ce n'est pas le ciel et la terre, ni aucun corps ». J'ai tardé à t'aimer, ô beauté, si ancienne et si neuve, j'ai tardé à t'aimer. Et voilà, tu étais dedans, et moi dehors, et je te cherchais dehors, où je me ruais, beau à rebours sur les belles choses d'ici-bas, tes ouvrages. Tu étais avec moi, sans que je fusse avec toi, tenue loin de toi par elle, qui... à moins que d'être en toi ne serait pas. Tu as appelé, crié, et tu as rompu ma surdité, tu as brillé par éclair et par vive lueur, et tu as balayé ma cécité. Tu as exhalé ta bonne odeur, je l'ai respirée, et je m'essouffle après toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif, tu m'as touché. J'ai pris feu pour la paix que tu donnes. Une fois soudé à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi douleur et labeur, et ma vie sera toute pleine de toi, la vie. Quand quelqu'un est plein de toi, tu l'enlèves. Plein de toi, je ne le suis pas, aussi mon être me pèse. Entre mes joies, j'ai allé pleurer, et mes peines, dont il faudrait me réjouir, il y a le conflit, sans que je sache de quel côté penche la victoire. Ah, le pauvre être que je suis, Seigneur, aie pitié de moi. Entre mes peines et mes bonnes joies, il y a conflit, sans que je sache de quel côté penche la victoire. Tout mon espoir n'est que dans l'ampleur de ta miséricorde. Donne ce que tu prescris et prescris ce que tu veux. Tu nous enjoins à la continence. Quand j'ai su, disait cet autre, que nul ne peut, si Dieu ne le donne, se contenir, aussi bien la continence a pour effet de nous ramasser, de nous ramener à l'un. D'où nous nous sommes épandus sur le multiple. C'est en effet t'aimer trop peu que d'aimer avec toi une chose quelconque, sans l'aimer à cause de toi. Ô amour qui toujours brûle et qui n'est jamais éteint. Ô charité, ô mon Dieu, enflamme-moi. Tu prescris la continence, donne ce que tu prescris et prescris ce que tu veux. Oui, oui, tu m'as prescrit d'être continent relativement et à la convoitise de la chair et à la convoitise des yeux et à l'ambition du siècle.
Thank you.
Nous voilà, chers amis auditeurs de Radio Espérance, nous voilà arrivés à la fin de l'émission Mystique d'Occident, notre émission quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Saint Augustin, évêque d'Hippone. Après avoir partagé avec lui le bouleversement du départ de la mort de sa mère devenue Sainte Monique, il nous a conduit dans ses réflexions sur qui est Dieu par rapport au monde créé. Nous sommes entrés également dans son examen de conscience sur la joie qu'il continue à désirer et la souffrance qu'il continue à fuir, et pourtant l'appel de Dieu qui lui fait déjà goûter les joies supérieures.
C'était les Mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.